Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Et pour faire comprendre à David sa faute, dont il ne semblait pas avoir du tout conscience, pourtant c'était une double faute d'un adultère et un homicide, le prophète Nathan est envoyé vers lui et lui raconte une petite histoire d'une brebis qui était comme la fille avec son propriétaire et ses enfants. Et j'évoquais ensuite la chef de M. Séguin que nous connaissons d'Alphonse Daudet. Et donc nous savons comment va s'enchaîner l'explication du prophète Nathan. Et pour Nathan, en effet, la chèvre est une brebis, mais la tendresse est la même. Comme toutes les paraboles, celle-ci ne porte pas dans tous ses détails. La brebis d'Uri est bien Bethsabée, sa femme, mais en fait la victime est le bari que David fait supprimer alors qu'il ne manquait pas de femme lui-même. Bethsabée n'a rien demandé et rien ne prouve qu'elle était légère comme la chef de M. Séguin. Elle n'a pu sans doute qu'être séduite par le roi et soumise à lui. David a bien entendu la parabole. Il est touché. Il est même scandalisé. Son sang ne fait qu'un tour pour stigmatiser l'autre puissant, avare et cruel. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela est passible de mort. Il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. Une fois de plus, le rédacteur inspiré a une trouvaille littéraire, car après la réaction de justicier de David qui ne songe pas un instant prononcer sa propre condamnation, Nathan se contente de lâcher de façon lapidaire « Cet homme, c'est toi ». C'est le fameux « Tu es ille vir » de la Vulgate. C'est toi, cet homme. David en reste quoi ? Nathan enchaîne « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël ». La formule est vraiment solennelle. « Je t'ai oint comme roi d'Israël, je t'ai sauvé de la main de Saül, je t'ai livré la maison de ton maître, j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si ce n'est pas assez, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. » Impressionnant. Le Seigneur qui multiplie ici les « je » détaille ce qu'il a fait pour David, manifestant ainsi sa prédilection pour lui. La finale de ce que Dieu dit émeut car elle rend évidente l'amour de Dieu pour David. « Si ce n'est pas assez, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. » C'est de passion qu'il faudrait parler s'il ne s'agissait de Dieu. Dieu exprime à la façon humaine son attachement. Il souffre d'avoir vu David s'éloigner de lui pour s'attacher à Bethsabée jusqu'à faire tuer son mari. Comme un ami blessé, il lui rappelle douloureusement les témoignages multiples et signalés de sa tendresse, se demandant ce qu'il aurait pu faire pour la rendre plus explicite, même ce qu'il pourra faire, car le futur ici laisse intacte l'espérance que garde Dieu de retrouver la fidélité de son bien-aimé. La tendresse de Dieu n'est pas faiblesse, sa miséricorde n'est pas contraire à sa justice. À Moïse, il a révélé, comme suit son identité, nous nous souvenons, le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Nos péchés sont des actes qui ont leurs conséquences, même pardonnés, et ils doivent être réparés. On connaît la distinction qui existe entre la culpe et la peine. La culpe est enlevée par un acte de vrai repentir et par le sacrement de la réconciliation. La peine due au péché est acquittée par la pénitence donnée par le prêtre et par les souffrances humblement acceptées. C'est le sens de la formule que le prêtre peut dire après l'absolution, que la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bien et tout ce que vous supporterez de pénible, contribue au pardon de vos péchés, augmente en vous la grâce pour que vous puissiez vivre avec Dieu. Le prophète Nathan, après avoir exprimé la tristesse de Dieu face à ce double forfait de David, et après avoir exprimé l'attachement que Dieu lui porte malgré tout, continue en disant « Parce que tu as méprisé le Seigneur et fait ce qui lui déplaît, tu as frappé par l'épée Uri le Hittite et sa femme, tu l'as prise pour ta femme, et lui tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites, maintenant l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. » Deux fois Dieu formule son accusation du double forfait de David, et le prophète poursuit: ainsi parle le Seigneur, je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, je les livrerai à ton prochain qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret, mais moi j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. Il ne faut pas comprendre que Dieu se venge en attisant le mal. Le Seigneur le montre bien dans son discours sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Non, Dieu ne se venge pas. Il est infiniment triste de nos infidélités, pour nous et pour lui, et pour nous plus que pour lui. Mais nos actes ont leurs conséquences. Ils portent en eux-mêmes leurs sanctions.